Chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre série « Ayez confiance » et nous arrivons à l'étude numéro 8 et le titre sera « Comment parvenir au bonheur dans le mariage ?» Une vie heureuse dans le mariage est possible pour tous ceux qui mettront en pratique quelques principes simples et sensés. Les complications supposément responsables de la destruction de tant de mariages modernes, elles peuvent être évitées si on le veut bien. En vérité, le problème du mariage a souvent été fortement compliqué par les soi-disant experts. Je suis convaincu que plusieurs mariages qui sont, semble-t-il, à un point de rupture peuvent être maintenus fermement et pour de bon par l'application de principes soulignés dans ce CD. Ces principes ne sont pas mis de l'avant comme des propositions théoriques. Ils sont énoncés comme des résultats de laboratoire à la suite de travaux sur des centaines de couples en relation confidentielle avec un conseiller spirituel. La fonction d'un conseiller n'est pas de considérer les difficultés entre mari et femme et de tenter de les résoudre d'un ton solennel à partir d'une sagesse supérieure. Mais s'il est capable de faire preuve d'un parfait jugement et de contribuer à conseiller de la façon la plus valable possible, il reste que dans la plupart des cas, les divisions qui causent la dispute ont tendance à persister. Lorsque un mariage arrive à un point de désaccord sérieux, il ne peut probablement pas être résolu entièrement sur une base de discussion logique et juridique. Un traitement positif doit être appliqué aux causes fondamentales qui ont poussé un mari et une femme à se faire la guerre l'un contre l'autre. Je ne suis pas très préoccupé par un peu de désaccord ou même de chamaillage, car il est naturel qu'une certaine dose de conflit existe entre des êtres humains vivants qui vivent dans une proximité immédiate. Je n'ai jamais été très impressionné par l'histoire que l'on raconte souvent d'un homme et d'une femme qui ont vécu ensemble pendant, disons, une quarantaine d'années sans jamais avoir le moindre accrochage. Peu importe si c'est vrai, il reste que ce serait une existence plutôt ennuyeuse pour deux personnes de vivre ensemble d'une manière si insipide qu'il n'y aurait jamais aucun désaccord. Plutôt d'une manière si insipide, oui c'est juste, parce que des fois je prononce impicide, excusez-moi, ça vient de la langue allemande. Bref, donc je dis bien qu'une bonne divergence d'opinion vigoureusement manifestée n'est pas mauvaise pour des êtres humains à condition qu'ils ne laissent jamais le soleil se coucher sur leur colère. Ça, c'est une magnifique maxime, croyez-moi, elle est même biblique. S'ils entretiennent d'un jour à l'autre les irritations accumulées découlant d'un désaccord personnel, eh bien sûr, des divisions sérieuses risquent finalement de se développer. Discutez donc, si c'est nécessaire, mais régler la question et surtout pardonner toute brusquerie avant d'aller dormir pour la nuit. Laissez chaque jour qui passe témoigner d'une unanimité d'esprit et peu importe les divergences d'opinion qui peuvent avoir pris naissance durant la journée. Même si c'est la coutume surtout de nos jours, d'expliquer la plupart des échecs matrimoniaux en disant que les conjoints n'étaient pas, par nature, très compatibles l'un à l'autre, eh bien le fait demeure que la plupart pourraient s'être ajustés s'ils avaient pris la situation en main et s'ils avaient corrigé, surtout corrigé, quelques erreurs simples. Par exemple, l'une des tendances les plus fondamentales dans la nature humaine est le besoin d'être apprécié. En fait, il devrait constamment se rappeler que chaque personne a un ardent désir d'être appréciée. Conduisez-vous en conséquence et vous aurez enrayé la majeure partie des problèmes du mariage à la racine. Le mari qui accomplit quelques progrès dans son travail désire une appréciation de sa femme, évidemment. Et lorsqu'il a travaillé dur toute la journée et qu'il rentre à la maison fatigué, c'est une erreur sérieuse pour sa femme, de considérer cela comme étant une chose acquise, tout à fait normale. Elle devrait au contraire lui dire comment elle l'apprécie en tant que mari et en tant qu'individu. Il me semble que c'est facile de dire « Je suis fier de toi ». Est-ce vraiment difficile de dire ça? Et cela fera des merveilles pour lui. Et vice-versa également. Et cela réconforte n'importe quelle personne. Si le repas est bon, que l'homme l'apprécie et qu'il le dise, si ce n'est pas bon, ne le dites pas, mais trouvez autre chose à apprécier. Il y a des tas de choses dans un ménage. Vivez dans l'espoir. Et cela sera mieux la prochaine fois. Pensez appréciation plutôt que critique. Je répète, pensez plutôt appréciation que pensez uniquement à des critiques parfois sordides. S'il doit y avoir critique, organisez une rencontre familiale. Mettez cartes sur table, mais ne soyez pas brutal et surtout ne condamnez pas d'un œil malveillant. Ne développez pas l'habitude de voir seulement les choses qui vont mal. Et j'en prends pour mon rhume. Vous voyez ce que je veux dire. Fixez donc votre attention sur les choses qui vont bien et appréciez-les et dites-le aussi et aussi souvent que possible. Cela lui fera énormément de bien et vice-versa. Et maintenant, voyons des cas concrets. Une jeune femme, visiblement dans une grande détresse mentale, est venue à la consultation. elle considérait sérieusement de quitter son mari, dit-elle. De son histoire, il apparut bientôt que tout ce dont elle avait besoin était d'un peu d'appréciation ordinaire. Quelques autorités plus sérieuses pourraient appeler cela de l'affection. Mais pour moi, cela lui semblait plus simple que cela. Et le pasteur de son église a essayé d'aider à résoudre ce problème. En parlant au mari, qui dit « Oh, voyez-vous, pasteur, elle ne me quittera jamais. » « Eh bien, ne soyez pas trop sûr de cela, » dit le pasteur. Le mari avait l'air ébahi. « Voyons, elle ne pourrait pas faire cela. Que pourrais-je faire sans elle ?»« Lui avez-vous jamais dit que vous ne pourriez vous passer d'elle ?» demanda le pasteur. « Je dois vous dire que j'ai un problème similaire avec une collègue, avec une pasteur qui est d'une extrême bonté et gentillesse. Mais je reconnais que je devrais lui dire un peu plus souvent combien je l'apprécie et je pense sérieusement que c'est un péché de ma part de ne pas le lui dire. Mais revenons donc à notre histoire. Je dis donc que le pasteur avait dit « Est-ce que vous lui avez jamais dit à votre femme que vous ne pourriez vous passer d'elle ?»« Eh bien non !» répondit-il le mari. Je n'aime pas tellement parler de cela. Et puis voyez-vous, au fond, elle le sait de toute façon, ou elle devrait le savoir. Peut-être le sait-elle, mais elle veut se le faire dire. Et oui, même elle aimerait certainement vous l'entendre dire. Pourquoi ? Dit l'homme. Ne me demandez pas pourquoi, répondit le pasteur. C'est comme cela que sont la plupart des femmes, mais aussi les hommes. Mais ce ne sont pas seulement les femmes, car chacun de nous, qui que nous soyons, a le profond désir d'être apprécier. Tout est là. Lui avez-vous par hasard apporté une fois des fleurs ou une boîte de chocolat récemment? Voyez-vous, c'était un homme très grand, 1,95 m, mais d'allure maladroite. Et il répond, voyons, de quoi aurais-je l'air en apportant des fleurs à la maison? J'aurais l'air d'un fou si je transportais des fleurs, grogna-t-il. Eh bien, cela ne change rien, répondit le pasteur. Ma prescription professionnelle dans cette situation consiste à investir dans des fleurs et à lui dire que vous ne pouvez rien sans elle. À contre-cœur, il accepta de le faire, et ainsi qu'il fut prouvé plus tard. Voyez-vous, cette attitude était tout ce qui était nécessaire. Elle mit fin à la froideur grandissante entre eux, dissipa l'incompréhension et réveilla la grande affection qui existait fondamentalement entre eux. Je réalise que ceci peut sembler trop simple, et je suis conscient que dans le cas de sérieux désaccords matrimoniaux, cela pourrait ne pas être efficace, mais dans les débuts, la simple appréciation est l'un des plus importants principes du bonheur conjugal. De petites choses peuvent avoir de grandes conséquences. Un manque d'appréciation dans les choses courantes peut grandir jusqu'à devenir un très grand facteur décisif. Il peut même devenir une barrière presque insurmontable. Et voici, chers frères et sœurs, un deuxième témoignage de ce même pasteur. Écoutez bien. Il dit qu'un cas, c'est lui qui parle, un cas m'a été présenté par une épouse qui avait franchi plusieurs centaines de kilomètres pour parler de son mariage qui, selon elle, était sur le point de s'écrouler. Les deux étaient au milieu de la trentaine. Ils étaient issus de bonnes familles. Ils étaient diplômés, hautement diplômés et extraordinairement intelligents. Il s'avéra que l'homme avait eu plusieurs aventures extra-conjugales, qu'il décrivit du reste vraiment effrontément et plutôt, il me semble, cruellement en présence de sa femme. À mon avis, c'est monstrueux. Il essaya plus tard d'impressionner son pasteur avec le fait qu'une femme avec laquelle il avait développé ce qu'il appelait une belle aventure amoureuse était un modèle de vertu, alors que, comme il l'admit finalement, elle était plutôt d'une pureté un peu moins classique. Lors d'une conversation privée avec le mari, le pasteur demandait d'être objectif, de mettre de côté les réactions émotives autant que possible et de dire ce qu'il croyait être la raison pour laquelle lui et sa femme avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre. À la stupéfaction, il se lança, le mari, dans une vigoureuse tirade basée sur les piètres talents de ménagère de son épouse et de son manque d'élégance. Il se plaignait du fait qu'elle ne pensait pas assez à lui, c'est-à-dire qu'elle ne l'appréciait pas assez, pour s'occuper convenablement de la maison. Il semblait même qu'elle aimait sortir avec les filles. Ses filles étaient ses amies de collège et elles avaient développé ensemble une passion pour le bridge. C'était leur habitude de se réunir dans un endroit propice pour manger et jouer toute l'après-midi. Cela arrivait plusieurs après-midi par semaine. Plus tard, dans l'après-midi, elle entrait en vitesse à la maison et rassemblait en vitesse à nouveau quelques éléments pour aboutir avec un souper visiblement improvisé. Souvent, les lits n'étaient même pas faits avant l'heure du coucher. Le désordre qui s'accumule normalement dans une maison n'était jamais replacé. Cela, disait-il, était plus qu'il n'en pouvait supporter. Je suis peut-être difficile, mais lorsque je rentre à la maison, je crois que j'ai le droit de trouver au moins un peu d'ordre, un repas convenable et certainement les lits faits. Pendant que le pasteur sympathisait avec lui et qu'il partageait ses vues sur le ménage et les jupons, il croyait nécessaire de dire ou de lui rappeler que lorsque il avait épousé cette femme, il ne l'avait pas engagée comme ménagère. C'est ce que le pasteur essayait de bien lui expliquer. Il lui soulignait qu'il avait établi un contrat selon lequel il devait vivre avec elle, non pas comme un homme avec une ménagère, mais comme un homme avec sa femme, et qu'ils étaient supposés de devenir des partenaires sacrés pour la vie. Il soulignait également que leurs deux jeunes garçons n'avaient pas choisi d'être mis au monde par lui et par sa femme, et qu'il était simplement le briseur d'un contrat, oubliant même les deux garçons ou son engagement sacré, et pensant simplement à son propre confort et à la beauté de sa vie. La discussion révéla qu'il avait encore un fort attachement pour sa femme, même s'il y avait considérablement d'aigreur dans leur relation. L'un des principaux problèmes chez son mari était qu'il ne faisait pas assez d'argent pour qu'elle ait une bonne, se plaignait-elle à son tour. Le pasteur lui soulignait que lorsqu'il s'était marié, il n'y avait rien dans le contrat de mariage concernant une bonne. De plus, il lui dit qu'elle était assez jeune et forte de corpulence pour travailler dans la maison et que travailler lui ferait quand même un peu de bien. Étant donné que cette étude peut être entendue sur ces dés par des personnes dont le mariage s'est terminé par un divorce, je veux dire quelque chose pour les aider à s'ajuster à cette situation. Voyez-vous, souvent, une telle expérience peut résulter en un sérieux choc pour la personnalité. Elle peut même détruire une vie et effacer entièrement le bonheur. Ça peut arriver. Un autre principe d'une importance fondamentale pour préserver le bonheur conjugal est de décider à quel point vous aimez vos enfants. Le mari d'une célèbre actrice de cinéma d'Hollywood avait dit « Lorsque certains journalistes d'Hollywood ont suggéré le divorce de sa femme, et je dois dire qu'ils l'ont même provoqué, quoique ils ne l'aient pas voulu délibérément, qu'il ne pourrait y avoir aucun divorce parce que, s'exclama-t-il, nous avons le bébé, un bébé, et nous ne pouvons pas le couper, le bébé, en deux. Son expression est juste, car c'est ce qui arrive fréquemment aux enfants d'un foyer brisé. J'ai connu cela. C'est terrible. Ils ne sont pas coupés en deux physiquement, mais ils le sont souvent émotivement. Fondamentalement, il y a un principe pour le bonheur conjugal et l'établissement d'un foyer durable. Et c'est une atmosphère de la foi chrétienne dans la famille. Peu importe votre religion, protestante ou catholique, mettez-la en pratique dans votre foyer. Vous serez étonné de voir à quel point les difficultés conduisent au malheur conjugal, qui conduisent parfois, on espère que c'est pas trop souvent, au malheur conjugal. Et ces difficultés, je vous promets qu'elles peuvent disparaître. Un ingénieur de la marine qui avait été en mer pendant 12 années a épousé une jeune veuve qui avait un fils. Lui, il n'avait jamais été contraint à s'ajuster à aucune situation familiale ou d'affaires. L'épouse veuve avait depuis 10 ans, elle avait pris en main l'entreprise de son mari dans un monde d'hommes. Elle gagnait sa vie et faisait vivre son fils et sa grand-mère grâce à cette entreprise. La grand-mère vivait avec eux dans un petit appartement et elle travaillait au bureau de l'entreprise de sa fille. La jeune veuve rencontra l'ingénieur de la marine dans un club de service durant la guerre. Ils s'épousèrent rapidement, mais pendant les 10 premiers mois, ils ne passèrent jamais plus de 2 jours ensemble à la fois, cela ayant lieu lorsque il était dans le port. La guerre prit fin et ils commencèrent à vivre ensemble. Il commença à prendre en main l'entreprise qu'elle possédait et qu'elle avait fait fonctionner. Il aménagea dans l'appartement déjà trop petit. En fait, il aménageait dans un nouveau monde de toutes les manières. Oui, le mari et la femme, ils étaient tous les deux des gens de grande valeur, on peut le dire. Mais, voyez-vous, les ajustements semblaient si difficiles que les gens disaient « Oh, cela nous paraît impossible ». Les deux jeunes gens aussi devenaient de plus en plus certains qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Ils en avaient assez. Ils regrettaient le mariage et étaient au point de rupture. Pendant ce temps, ils fréquentaient tout de même l'église très régulièrement. Ils sont devenus intéressés par un groupe de jeunes couples également mariés à l'église. Un jour, ils partagèrent franchement leurs problèmes ainsi que leur échec avec un autre couple qui, à force d'expérience, avait appris comment la foi chrétienne peut refaire et enrichir le mariage. Cet autre jeune couple les avait mis au défi de cesser de voir constamment uniquement les problèmes de leur situation et ceux qui existaient en chacun d'eux, et de plutôt de commencer pour de bon à demander l'aide de Dieu. Aussi, ils furent mis au défi de s'examiner très honnêtement. Et c'est là le problème. Nous nous examinons surtout que superficiellement. Donc il fallait s'examiner profondément afin de voir ce qui n'allait pas dans leurs propres attitudes et de faire face positivement aux ressentiments et aux craintes. Ils commencèrent à remplacer ces fautes par la compréhension, la patience et la foi, et ils furent exhortés à rechercher des changements spirituels en eux-mêmes et en se changeant ainsi à changer la situation. Aussi, ils ont admis avoir tout essayé à part Dieu et Jésus-Christ. Ils étaient allés voir un psychiatre. L'idée de Dieu comme un ami personnel et comme un facteur positif dans la situation ne leur était même pas venue à l'idée. L'idée qu'ils seraient intéressés par les détails de leur vie, tout cela était entièrement nouveau pour eux. Alors ils se joignirent à l'autre jeune couple, à ce couple qui avait réussi dans leur mariage, en priant à voix haute et en demandant qu'un tel changement puisse prendre place aussi en eux. Ils s'abandonnèrent à la volonté de Dieu, enfin. Et une semaine plus tard, au sein d'un petit groupe, ils relatèrent qu'un miracle, oh oui, un miracle s'était produit et, en fait, leur apparence personnelle le confirma à tous ceux qui les connaissaient. Ils semblaient complètement soulagés et visiblement, ils s'aimaient maintenant d'une manière beaucoup plus profonde. Une nouvelle assurance caractérisa le mari qui affecta et changea ses contacts d'affaires. Une joie totalement nouvelle irradiait la personnalité de l'épouse. Ils commencèrent immédiatement à pratiquer à la maison des périodes de prière du matin et du soir pendant lesquelles ils demandaient des réponses aux problèmes quotidiens qu'ils avaient à affronter. Tous les deux priaient maintenant à voix haute. Ils instituèrent la pratique d'une période de calme durant laquelle ils disaient qu'ils écoutaient les directives du Seigneur. Ils adoptèrent la pratique voulant que, lorsque ils étaient confrontés à un problème d'affaires, plutôt que d'essayer d'imposer mutuellement leur vue sur ce qui devait être fait, ils recherchaient ensemble maintenant, et cela dans la prière, la manière chrétienne d'y faire face. Lorsque des problèmes surviennent avec le fils qui est adolescent, c'est-à-dire le fils de l'épouse, il s'assoyait simplement avec lui et tous les trois commencèrent à lire la Bible, priant ensemble et cherchant la meilleure façon de faire face au problème. Et il n'y a plus de division ou de jalousie désormais dans leur décision multiple de la vie, de la vie courante, et ainsi aussi avec le garçon. Mais il y a maintenant une attitude de travail d'équipe qui prévaut plutôt, et tous les trois faisons partie de l'équipe locale maintenant. Ce couple est tellement imprégné de ce nouvel esprit qu'il croit positivement que cela peut résoudre n'importe quel problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils aident constamment et passionnément, on peut le dire, les couples qui ont des difficultés, qui ne possèdent pas la paix du foyer, pour les éclairer sur la façon merveilleuse par laquelle ils peuvent obtenir le bonheur réel en Christ. Ils sont maintenant certains qu'ils possèdent une formule qui garantira à n'importe quel mari ou femme la possession du bonheur conjugal. Procédant par induction à partir de ces histoires, permettez-moi, chers amis, de conclure avec quelques conseils simples et pratiques qui vont essayer de vous aider, qui vont créer en vous une atmosphère spirituelle à la maison. Voyons cela ensemble. Premièrement, prenez l'habitude de dire simplement quelque chose de plaisant comme premier mot le matin en vous levant. Dites une chose heureuse, une chose constructive de nature. Deuxièmement, tout le monde à la maison devrait se lever 5 minutes plus tôt et utiliser ces minutes supplémentaires pour la prière silencieuse. Tout le monde à table pendant cette période peut prier. Puis laissez un membre de la famille énoncer quelques mots simplement, quelques mots de prière. Cela permet de contrôler le départ habituellement mouvementé de la journée de travail. Troisièmement, choisissez l'une des émissions religieuses du matin, ça existe dans presque toutes les langues, à la radio, qui vous semble utile. Asseyez-vous calmement et écoutez-la ensemble. Quatrièmement, récitez les grâces au dîner. Si l'épouse est seule, qu'elle ait un moment calme de méditation pour remercier Dieu pour sa famille et lui demander de la guider. Cinquièmement, au souper, récitez les grâces. Prenez pour règle qu'aucun problème, aucune inquiétude et aussi aucun ressentiment ne doivent faire partie de la conversation à table. Évitez cela. Faites en sorte que tout contrevenant dépose, on peut dire, 2 euros, pourquoi pas, dans une tirelire. Avez-vous compris ce que j'ai dit ? Faites en sorte que tous ceux qui ne se tiennent pas à ces règles déposent 2 euros, dans une des tirelires. C'est pas tout à fait stupide cela. Ça a aidé des personnes à se corriger. Sixièmement, à la fin du repas, Laissez un membre de la famille lire quelques versets des Saintes Écritures. Faites varier cela à l'occasion par un verset biblique qui vous inspirera ou un paragraphe stimulant tiré d'un livre spirituel. Et laissez celui qui prie remercier Dieu pour les autres membres de la famille en ces moments-là. Septièmement, ne soyez pas sombre lorsque vous faites tout cela. Non, soyez expressif dans la joie du Seigneur, parce que toute expression revêche ne dénote pas la foi chrétienne. Donc soyez plutôt gai, c'est pas défendu. Huitièmement, amenez toute la famille à l'église le dimanche et asseyez-vous ensemble dans un banc familial. Ça existe. Neuvièmement, gardez de la bonne littérature chrétienne sur les tables de lecture à la maison. Et dixièmement, conservez une Bible sur votre table de chevet et imprégnez quelques grands textes dans votre esprit avant de dormir. Les psychologues disent que ce à quoi vous pensez durant les 5 minutes précédant le sommeil a un effet profond sur votre conscience. Remerciez Dieu pour toutes les bénédictions de la journée. Puis alors que vous éteignez la lumière, répétez ces mots. Il, le Seigneur, il donne son sommeil à ses bien-aimés. Alors croyez que Dieu vous donne un sommeil profond et rafraîchissant, et cela se produira. Écrivez-le au-dessus du foyer dans chaque maison et gravez-le dans l'esprit de chaque mari et femme au pays. Si Yahvé ne bâtit la maison en vain, peine les bâtisseurs. Je répète, si Yahvé ne bâtit la maison, en vain, peine les bâtisseurs. Amen. Chers amis, nous allons terminer cette courte étude par la prière. Prions. Père céleste, nous nous émerveillons du mystère de ton amour. Ton amour qui, tout en prenant en considération notre condition inférieure, peut prendre en compte notre faiblesse et nos besoins, quand bien même tu as tant et tant d'enfants dans le monde qui ont tant de besoins de péché et de chagrin. Pourtant, dans ton amour immense, tu te penches pour nous écouter, que ce miracle ravisse nos cœurs et que sa signification captive notre volonté. Fais que notre conviction soit forte, que nous sachions que tu nous écoutes, et cela même maintenant, alors que les pétitions qui montent de nos cœurs sont entendues et ont mis en marche tous les processus de l'amour divin. Cet amour qui nous guérira ainsi que ceux pour lesquels nous prions. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, chers amis, que le Seigneur vous bénisse.